week-end. À demain donc, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Et au carillon de repas, il est 22h et c'est Guillaume Lariche qui vous présente les informations ce soir. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous.
Europe 1 Nuit Week-end. Guillaume Lariche.
Parti en début d'après-midi de Barbès à Paris, le défilé contre le racisme s'est regroupé ce soir place de la République pour un concert avec des rappeurs dont l'un est pour le moins controversé. N'ayant pas reçu les primes promises par le ministère de l'Intérieur, les policiers eux ont prévu d'aller taper à la porte du ministère de l'Économie. Et puis alors qu'on célèbre aujourd'hui les 80 ans du droit de vote pour les Françaises et que le gouvernement réfléchit à des mesures pour encadrer la jeunesse face à la délinquance chez les ados en France, la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Constance Le Grip, sera avec nous dans Europe 1 New Weekend pour échanger autour de l'actualité. Enfin, nous retrouverons notre envoyé spécial à Jérusalem, Wilfried de Villers, après une semaine de tensions au Moyen-Orient en raison de l'attaque de drones et de missiles par l'Iran sur Israël. Les deux pays semblent s'éloigner d'une escalade.
Europe 1.
À Paris, une marche antiraciste a quitté Barbès en début d'après-midi pour rejoindre la place de la République. Ce soir, 3000 personnes réunies d'après la police, une cinquantaine d'organisations représentées, comme LFI ou encore le nouveau parti anticapitaliste. Guillaume Dominguez, vous avez suivi cette marche contre le racisme et ce soir, la musique ne va peut-être pas adoucir les mœurs.
Oui, ici, environ 200 personnes sont rassemblées devant une petite scène sur la place de la République. Depuis maintenant plus d'une heure, plusieurs rappeurs se succèdent avec parfois une prise de parole pro-palestinienne ou à l'encontre des forces de police. Est attendu ici le controversé rappeur Medine, un concert et une journée de mobilisation soutenue par la France Insoumise. Plusieurs élus, dont Mathilde Panot et Louis Boyard, ont assisté à une partie du concert. Une après-midi de manifestation qui s'achève ici, place de la République. 3000 personnes se sont élancées en début d'après-midi de Barbès pour une manifestation contre le racisme. Une mobilisation sans incident, mais marquée par plusieurs prises de parole et slogans contre la police et l'État d'Israël.
Est-ce qu'on se dirige vers une fronde des policiers ? À 96 jours des Jeux Olympiques, ils n'ont toujours pas touché les primes promises par le ministère de l'Intérieur. Les syndicats entendent bien se mobiliser à la fin du mois devant le ministère de l'Économie et des Finances. Écoutez les explications de Grégory Joron, c'est le secrétaire général d'unité SGP Police.
À moins de 100 jours des Jeux, tout ce qu'on avait discuté pour conditionner à l'engagement des agents, parce qu'il va être quand même assez énorme, et on va leur en demander beaucoup, pour le coup est bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs primes déjà discutées depuis le protocole, qui devait sortir en 2023, on n'en a pas vu un centime. L'indemnité du journalière d'absence temporaire des CRS, qui devait être augmentée au 1er janvier, on n'en a pas vu un centime. Malheureusement, Bercy les bloque, et aujourd'hui, les conditions sont plus réunies, ne sont pas réunies, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait un engagement fort des agents. Donc on appelle le 30 avril, en effet, à manifester devant Bercy. Parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, on a des technocrates en cravate qui font la loi sur des textes pourtant, encore une fois, je le dis, discutés et signés par des organisations syndicales majoritaires et représentatives.
Propos recueillis pour Europe 1 par Martin Lange.
Europe 1 Nuit Week-end, Guillaume Lariche.
Et dans Europe 1 New Week-end, nous recevons ce soir Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonsoir Constance Le Grip.
Bonsoir.
Ce 21 avril 2024, c'est un jour anniversaire puisque ce dimanche marque les 80 ans du droit de vote des femmes en France. Vous, en tant que femme d'une part et de députée d'autre part, est-ce que c'est important pour vous de célébrer cette date ?
C'est bien sûr tout à fait important de célébrer cette date, de redire haut et fort qu'il a fallu des années et des années, des décennies de mobilisation, de combats incessants pour parvenir à obtenir le droit de vote et que nous devons, par cette journée du 21 avril, rendre hommage à toutes les féministes, à tous les hommes également qui ont accompagné les militantes féministes pour qu'enfin en France soit décroché le droit de vote aux femmes. Et puis bien sûr, nous devons également penser et rendre hommage au général de Gaulle puisque c'est lui qui a pris cette ordonnance, très précisément le 21 avril 1944. Donc c'est une journée importante qui doit nous rappeler que c'est la mobilisation et le combat ont mené à ce résultat et que cette mobilisation et ce combat doivent encore être menés dans bien des régions du monde, bien des pays du monde. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Constance Le Grip, en tant que députée des Hauts-de-Seine, vous avez vécu vous aussi l'an dernier les émeutes. Ces dernières semaines, plusieurs personnes ont été agressées, blessées, voire même tués en pleine nuit. Des adolescents sont mis en cause. Et d'ailleurs, on a fait un sondage pour CNews, le JDD et Europe 1. 67% des Français interrogés dans notre sondage sont pour un couvre-feu pour les mineurs dès 23h à l'ensemble des villes de France. Est-ce que, selon vous, cette option voulue par deux tiers des Français est normale, acceptable et à mettre en place ?
elle doit, à mon avis, être très sérieusement étudiée. Hein. Je ne suis pas absolument décidée au jour d'aujourd'hui à vous dire que c'est le remède miracle, la panacée qui pourrait résoudre les problèmes de violence, le déchaînement de violence auquel on assiste dans certaines parties de la population jeune de notre pays. Mais très franchement, il me semble que c'est une piste qu'on ne doit pas exclure. Il faut qu'on regarde très précisément avec certainement l'Association des maires de France, avec d'autres associations d'élus, s'il y a là une piste. Je pense que l'importance du combat, de la mobilisation, de l'engagement que nous devons tous mener, gouvernement, associations, élus, parents, forces de sécurité, sociologues, éducateurs, enseignants contre la violence, et notamment la violence qui gangrène une partie de notre jeunesse, est tellement important qu'il n'y a aucun tabou, aucune piste qui ne doit être d'emblée exclue. Et celle du couvre-feu doit pouvoir être étudiée, à mon sens, assez rapidement, en même temps assez sereinement, parce qu'elle pourrait peut-être représenter dans certaines portions du territoire une piste vraiment intéressante. Il ne faut rien exclure, toute une panoplie d'outils, comme certains
ont
d'ailleurs déjà été présentés par le Premier ministre, doivent pouvoir être déployés pour véritablement réussir à faire baisser la violence.
Justement, Constance Legrip, vous parlez du Premier ministre Gabriel Attal qui sera demain pour présenter l'expérimentation d'internat éducatif à Nice. Moyen pour lui de sauver les jeunes qui seraient sur le point éventuellement de sombrer face à la délinquance. L'idée, c'est de leur offrir un cadre. Et donc, est-ce que ce serait plus à l'école d'agir là où les parents n'arrivent plus ?
En tout cas, c'est à la puissance publique d'agir dans le cas de parents défaillants ou de parents qui sont débordés, qui n'arrivent plus à faire face. C'est pour ça que cette solution de mettre en place des centaines, voire des milliers de places d'internat et de les proposer à certaines familles qui n'arrivent plus à remettre leurs jeunes, leurs adolescents dans le droit chemin, hein, comme on dit un peu familièrement, est clairement une solution intéressante, et je crois vraiment qu'il faut qu'on développe cela. Ça avait été dit dans sa déclaration de politique générale par le Premier ministre. Le gouvernement tout entier a travaillé à la mise en place de ces milliers de places en internat. Vous l'avez dit, le Premier ministre se rend à Nice demain pour voir comment se met en place ce premier internat. C'est clairement une voie qui me semble être concrète, pragmatique, et que l'on peut offrir aux familles lorsque des jeunes commencent à lentement glisser vers la délinquance, vers refus.
Vous le dites effectivement, un cadre complètement à apporter à des personnes qui sont peut-être en manque de repères. En tout cas, sur Europe 1, nous a reparlé de la mise en place du service militaire. Est-ce qu'il le faut pour vous ? Il faut y revenir, aux conscrits ?
Très franchement, le service militaire à l'ancienne, à la papa, entre guillemets, n'est pas, à mon sens, une voie d'avenir. Hein. J'entends bien que certains et certaines voix s'élèvent pour, de manière un petit peu nostalgique, évoquer ce service militaire. Je crois que cela ne répond plus, le service militaire tel qu'on l'a connu, à la donne de défense, à la donne de sécurité, à la donne géostratégique et géopolitique à laquelle notre pays doit faire face. Notre armée est maintenant une armée de professionnels. Il y a ce qu'on appelle le SNU, le Service National Universel, qui doit pouvoir être développé, qui doit pouvoir, c'est d'ailleurs une montée en puissance que le gouvernement appelle de ses voeux et qu'il essaye de mettre en place, qui doit pouvoir rassembler de plus en plus de jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Le CNU, des parcours citoyens renforcés tout au long de la scolarité, un engagement civique à travers également des formes de services civiques qu'il faut rendre certainement plus attrayants et dont il faut aussi tout simplement que l'on informe certainement plus nos jeunes. Tout cela doit pouvoir être déployé plutôt qu'un retour en arrière à un service militaire qui, en réalité, on le sait, ne répond plus aux besoins de nos armées et ne pourrait plus vraiment permettre d'aller vers des solutions d'avenir. Encore une fois, ce réarmement civique auquel nous souhaitons, pour restaurer la force de l'autorité de notre pays, procéder, il doit passer par toute une série d'outils où tout un chacun doit prendre sa place.
Oui, c'est plusieurs choses, c'est d'arriver à proposer plusieurs solutions.
Les parents, les parents défaillants, la justice. Il y a
alors à propos de parents, justement, vous en parlez, on a Marine Le Pen qui, elle, est à Mayotte et qui parle, encore une fois, de supprimer les allocations familiales pour les parents, les familles qui ne rempliraient pas leur rôle de parents. Vous qui parlez des parents à l'instant, il faut le faire.
Alors, tout dépend de ce que l'on entend par ne pas remplir son rôle de parent, mais effectivement, il y a des dispositifs qu'on doit pouvoir enclencher lorsque sont vraiment constatées les défaillances réelles du rôle d'éducateur qui incombe, encore une fois, c'est la loi, aux parents et aux deux parents, hein, je dis bien aux deux parents. Les deux parents restent parents, quoi qu'il arrive de leur statut marital. Et donc, nous avons mis en place, et je pense que ce sont des sujets qu'il va falloir bientôt aborder au Parlement, parce qu'il y aura certainement des lois à voter assez rapidement, un système d'amende pour les parents, par exemple, qui ne se rendraient pas aux convocations des juges, des peines d'intérêt général pour des parents qui se montreraient vraiment défaillants. Je pense plutôt à des pistes comme cela que la suppression sèche des allocations familiales. Mais clairement, le volet responsabilisation des parents, y compris responsabilisation financière à travers des amendes ou à travers des prononcés de peines de travaux d'intérêt général, doit être clairement renforcé. Encore une fois, c'est clairement également le volet responsabilisation parentale que nous devons activer fortement.
Et il y a une marche contre le racisme aujourd'hui et l'islamophobie en ce dimanche à Paris, à l'appel d'une cinquantaine d'organisations d'extrême gauche notamment. Nous, on a un reporter qui était sur place et qui nous a parlé de slogans pro-palestiniens. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cet après-midi de rassemblement qui a pu avoir lieu à Paris?
Alors, je n'ai pas vu les images ou vu les slogans de cette marche cet après-midi à Paris.
Moi, slogan je dis, aussi contre la police, un Macron assassin, ça a été vraiment assez large.
Alors, hein. Tout cela est absolument.
C'était vraiment Israël qui a été visé.
Si vraiment il y a des slogans haineux, des slogans qui appellent à la haine des Juifs, à la haine de l'État d'Israël, voire même qui sous-tendraient la volonté d'aboutir à l'anéantissement, hein, à la disparition de l'État d'Israël, il faut que ces slogans et leurs auteurs soient dûment poursuivis et sanctionnés, bien évidemment. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette manifestation, mais ce que je peux dire, c'est que je peux tout à fait comprendre que l'on ait envie d'exprimer son soutien à la cause du peuple palestinien et que l'on a envie d'avoir une position politique, par exemple, favorable à la solution à deux États, hein, comme on le dit, la paix et la sécurité pour le peuple palestinien comme pour l'État d'Israël. Mais par contre, aller vers des positions politiques qui prônent la disparition de l'État d'Israël, qui prônent la disparition de ce foyer national pour le peuple juif est absolument inacceptable et il y aurait là des positions et des slogans que je n'hésiterai pas à qualifier d'antisémites. Donc encore une fois, faisons attention. L'amalgame, encore une fois, parce que c'est certainement de cela dont il pourrait s'agir, doit être dénoncé, très clairement dénoncé, parce que l'antisémitisme de nos jours, en France comme ailleurs en Europe, et particulièrement depuis le 7 octobre dernier et l'attaque terroriste islamiste du Hamas contre des civils israéliens, il prend également le visage, le masque de l'anti-sionisme, de la haine de l'État d'Israël, de l'appel à l'anéantissement de l'État d'Israël. Et donc nous devons avoir absolument aucune complaisance.
On a bien compris votre point de vue.
Au contraire, beaucoup de sévérité si des slogans, des porteurs de pancartes sont ainsi identifiés.
Constance Le Grip, quelques mots encore. Vous êtes députée de Haute-Seine. J'aimerais vous questionner sur l'A13 qui est fermée entre Saint-Cloud et Vaucresson pour cause de fissures imposantes, béantes, géantes sur la chaussée. Vous savez quoi, vous, comme dernières infos de votre côté? Et est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas pu être anticipé?
Non, pour être tout à fait franche, je n'ai aucune information de plus que celle dont vous disposez. Pour être tout à fait franche, je n'en sais pas plus que vous, les journalistes, à ce sujet.
Alors, votre confrère Karl Olive, député des Yvelines, lui demande la gratuité de la 14, le temps que justement on puisse réouvrir cette A13. Votre avis ?
clairement, si la fermeture devait se prolonger sur plusieurs jours, ce qui semble être assez clairement envisagé, n'est-ce pas, voire au-delà, il faudrait aller vers cette gratuité, parce qu'il faut pouvoir offrir aux habitants d'Île-de-France, et notamment aux Alto-Séquanais, la possibilité de se déplacer rapidement et de manière sûre. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, une compensation à travers la gratuité sur ces quelques tronçons de la 14 peut être une piste tout à fait sérieusement envisagée, bien sûr.
Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Nuit Weekend.
Merci à vous, merci beaucoup.
Europe 1 Nuit Weekend, Guillaume Lariche.
Europe 1, 22h15, demain, les Juifs du monde entier commenceront à célébrer Pessah, la Pâque juive. Pas forcément simple de vivre sa spiritualité, alors que ce mercredi, cela fera 200 jours que les otages israéliens ont été kidnappés par les terroristes du Hamas. Depuis, l'armée israélienne mène des petites frappes sur Gaza. Wilfried De Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem. Et une semaine après l'attaque de l'Iran sur l'État hébreu, l'armée israélienne a plus d'informations.
Oui, on apprend qu'il s'agissait de frappes doubles, des tirs de drones, mais aussi de missiles S-300. Des missiles assurent officieusement des responsables iraniens et israéliens au New York Times qui ont visé et endommagé les systèmes de défense antiaérien de Natanz, ville hautement stratégique puisqu'elle abrite parmi les plus importants centres de recherche du programme nucléaire iranien. Des images satellites diffusées par des médias iraniens d'opposition montrent également les dégâts causés par les explosions. Une façon pour Israël de montrer qu'il est capable de contourner et de neutraliser les systèmes de défense de Téhéran. Il s'agissait aussi pour les Israéliens de restaurer leur force de dissuasion. Plusieurs analystes militaires cités dans les médias ici à Tel Aviv affirment que ces frappes et celles en Irak hier ont permis d'ouvrir un couloir de tir jusqu'en Iran en cas de riposte de Téhéran. Les tensions semblent désormais s'apaiser malgré déclarations belliqueuses et mises en garde d'une part et d'autre.
Oui, mais Wilfried, la tension est donc montée d'un cran sur le terrain.
Oui, la bande de Gaza, particulièrement le sud, a été lourdement bombardée par l'armée israélienne aujourd'hui. Et puis, on peut aussi parler de ces tentatives d'attaque, différentes tentatives d'attaque contre des Israéliens en Cisjordanie. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre un réserviste de l'armée tenter d'enlever un drapeau palestinien avant de sauter sur une mine. Le drapeau était en fait piégé.
Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem. L'État hébreu qui a reçu hier un soutien financier des États-Unis par la Chambre des représentants. L'aide militaire de plusieurs milliards de dollars doit encore être approuvée par le Sénat américain, probablement après-demain, mardi. Le Sénat devra aussi valider les 61 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Son président, Volodymyr Zelensky, estime que l'argent sauvera des milliers de vies. La Russie pense au contraire que l'aide tuera encore plus d'Ukrainiens. Allez, les sports à présent avec les 24 heures du Mans Moto, remportées cet après-midi par Suzuki devant BMW Yamaha. Le circuit de la Sarthe qui accueillera les 24 heures du Mans Auto, ce sera le week-end du 15 juin. En cyclisme, Liège-Bastogne-Liège a été gagné par Pogacar ce dimanche. Le Slovène, 25 ans, s'est imposé après un raid en solo de 35 km. Le football à présent, PSG Lyon pour conclure la 30e journée de Ligue 1. C'est au Parc des Princes. Où en sommes-nous, Martin Lange ?
Eh bien, ce sont les Parisiens qui mènent 4 buts à 1, Guillaume. Des Parisiens qui ont très très bien commencé le match puisqu'ils menaient déjà 2-0 au bout de 6 minutes grâce à un but contre son camp de Matic, puis un but du défenseur brésilien Beraldo. Donc 2-0 après 6 minutes. Ensuite, c'est Gonçalo Ramos qui a inscrit un doublé pour les Parisiens, alors que côté lyonnais, Ernest Nuamin a un petit peu réduit le score. 4-1, donc, alors qu'on joue à peu près l'heure de jeu. Des Parisiens complètement euphoriques après leur qualification cette semaine en demi-finale de la Ligue des Champions, qui réussissent à peu près tout ce qu'ils entreprennent. Et face à eux, les Lyonnais très ambitieux pour venir au Parc, mais qui se font ouvrir en deux sur les contres parisiens et qui sont donc menés 4-1. Des Lyonnais qui ont un petit peu changé de stratégie à la mi-temps, puisqu'ils ont fait sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur et être un petit peu moins entreprenant, justement. Une petite demi-heure à jouer encore au Parc des Princes et Paris, donc, qui mène 4-1.
Ouvrir en deux, c'est de la boucherie, donc.
Exactement, c'est une boucherie, tout à fait, Guillaume.
Merci Martin. Dans les autres rencontres de ce dimanche, deux partout entre Toulouse et Marseille. Cet après-midi, Monaco-Metz, Montpellier et Lille se sont imposés. Monaco qui est actuellement deuxième du championnat avec 2 points d'avance sur Brest et 3 sur Lille. Enfin en rugby, l'ultime rencontre de la 21e journée du top 14 a lieu en ce moment. Bordeaux-Bègles reçoit Clermont.
Europe 1 Nuit Weekend. Guillaume Lariche.
La une de vos journaux pour demain, deux sujets en première page des Échos pour qui Washington soulage l'Europe avec ses 61 milliards de dollars d'aide militaire pour Kiev. Sur le front, l'utilisation massive des petits drones bouleverse les combats. L'autre sujet du quotidien économique concerne le contrôle des chômeurs. Plus de 8 demandeurs d'emploi sur 10 cherchent bien un poste. Du côté de l'Ouest France, l'agriculture européenne est à la croisée des chemins et les défis à relever pour le secteur sont nombreux. Enfin, Libération zoom sur la banalisation du Rassemblement national avec une photo de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et 22 ans après le 21 avril 2002 où Jean-Marie Le Pen accéder au second tour de la présidentielle. Le parti d'extrême droite se fond désormais dans le paysage politique et social français. À 22h19, on fait le point sur le temps. Bonsoir Anthony Kazmarek, nous allons surveiller le gel demain matin avec des risques de température négative en dehors du littoral.
Bonsoir Guillaume, oui, moins 1 à 3 degrés prévus en ville, ce qui veut dire qu'en campagne ça descendra parfois plus bas, jusqu'à moins 2, moins 3, ce qui commence à devenir problématique pour la végétation et les cultures. Moins 1 sont prévus à Nancy et à Aurillac, 0 à Reims et Nevers. 4 degrés dans Paris, mais ça gèlera certainement en grande banlieue. Et dans l'après-midi, on aura du mal à atteindre les 15 degrés. 17 péniblement à Toulon et Montpellier. 14 seulement à Nice et Marseille. 12 à Paris, Lille et Orléans. 11 degrés à Lyon et Strasbourg et 8 pour Saint-Étienne. Avec encore de l'instabilité dans l'Est, entre l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, la Corse. Averses de neige sur les reliefs à partir de 700 mètres dans l'après-midi et quelques coups de tonnerre possibles vers le Mercantour. Partout ailleurs, plutôt une belle matinée, mais déjà des averses près des côtes de la Manche qui gagneront tout le nord de la Loire l'après-midi avec de plus en plus de nuages. Et ce sera quand même très ensoleillé dans un large quart sud-ouest, depuis les Pyrénées jusqu'à la Loire. Tout bleu même quasiment pour la côte aquitaine. Et puis attention au vent, le Mistral et la Tramontane, notamment près de la Méditerranée, jusqu'à 80 km/h en rafale.
Merci Anthony Kazmarek. 22h20, donc Europe 1, en ce milieu de soirée, vous faites la route avec Valérie Darmon. Et puis, puisqu'on se dit tout, Valérie m'a donné une mission, je dois amener son courrier au niveau de la boîte aux lettres, donc je vais partir de ce pas vraiment. Avant d'aller continuer mon flash.
C'est oui, ça, mais c'est sur le chemin, mais parce qu'on est solidaires dans la famille Europe 1. C'est pour ça, on se parle de nos vies, on se raconte, et on recueille les témoignages des auditeurs qui se racontent aussi
de la sincérité,
sur l'antenne d'Europe
1.
Voilà, et de l'authenticité surtout, et pour de la bienveillance. Donc tout ça, c'est en vous aussi, Guillaume. Donc merci, à tout à l'heure 23h pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h, 1h.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
À tous et bienvenue dans votre dernière libre antenne de ce week-end sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, que vous soyez sur la route de retour de vacances ou confortablement installé chez vous. Juliette et Nicolas sont là à mes côtés, comme tous les week-ends, pour prendre vos appels au standard au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez aussi nous laisser des SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, nous joindre sur la page Facebook de l'émission et par mail à la adresse libreantenne@europe1.fr. Benoît est à la réalisation, moi à votre service. Voici la citation de ce soir de Philippe Roth. Ne vous battez pas contre vous-même, il y a déjà suffisamment de cruauté dans le monde. Mais j'ajouterai, essayez tout de même de travailler un petit peu votre nature. La libre antenne de ce dimanche, c'est parti.
En toute confiance, appelez maintenant Valérie Darmon au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous souriez déjà. Je vous dis bonsoir, vous souriez. C'est un bonheur.
Je souris parce que c'est la première fois qu'une émission de radio me rappelle sur un sujet qui m'est important. Donc je suis ravi d'être en ligne avec vous. Voilà,
bah, écoutez, c'est le principe de la libre antenne. Vous nous laissez des messages sur les adresses mail, sur les répondeurs, et on vous rappelle pour vous prendre à l'antenne. Donc, justement, de quoi voulez-vous nous parler ce soir, Daniel ?
Eh bien, je réagis à une audition que vous avez faite il y a 15 jours avec une certaine Josiane qui exposait les problèmes qu'elle avait avec sa maman. Et sa maman très âgée et qu'elle n'arrivait pas à gérer. Et puis il y avait une chose qui m'avait tracassé dans cette interview, c'est que cette dame occultait complètement la maladie. Et moi, je vivais exactement la même chose avec ma maman pendant des années, exactement ce que vivait cette dame. Et il y avait une chose qu'on a su juste avant sa mort, il y a quelques semaines, c'est qu'elle avait une grave maladie, la maladie d'Alzheimer. Et moi aussi, je croyais que c'était le caractère de ma maman, le fait que c'était une femme très autoritaire, très déterminée, qui n'admettait pas la critique, qui faisait qu'elle avait un comportement qui n'était pas agréable avec personne. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais appelé il y a 15 jours.
Oui.
Et puis, donc, c'est le sujet, c'est comment gérer nos anciens.
Et oui.
Quand les maladies psychiques
se réveillent et prennent le dessus. Ce qui m'interpelle, c'est que dans votre cas, la maladie d'Alzheimer n'avait pas été diagnostiquée avant.
Non, pas du tout, parce que ma maman, forte de caractère, refusait tous les examens, tous les soins. Même quand le docteur venait prendre l'attention à mon papa, elle ne voulait pas qu'il lui prenne l'attention, parce qu'elle disait « je suis en pleine forme ». Et c'est vrai que comme ça, d'allure, elle semblait en pleine forme. Elle conduisait, elle allait faire ses courses, mais il y avait plein de choses qui n'allaient plus depuis 3-4 années. Et puis là, on a eu la confirmation, malheureusement, de la maladie, alors que ça faisait un an que j'essayais de lui faire passer des tests et que je réussissais. Mais c'était tout un poème pour lui faire passer le moindre test. 4 jours avant son décès, et elle est décédée juste d'une rupture d'anévrisme qui n'avait rien à voir avec Alzheimer. Mais on a su le mardi qu'elle avait Alzheimer, et le samedi, la pauvre, elle a fait cette rupture d'anévrisme. Mais ça a été un combat pendant des années, et on croyait que c'était son caractère. On croyait que c'était son comportement. Elle s'était coupée de toute vie sociale, amicale, familiale, sauf avec moi, qui suis son fils unique, et puis ses petites filles, mes enfants. Mais tous les autres, elle avait coupé les liens parce qu'elle ne voulait plus voir personne. Et elle disait que tout allait bien. Et c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était sa tête qui lui faisait dire des choses qui n'étaient pas la réalité de sa vie.
Mais vous avez observé un changement dans son tempérament avec les années, où elle avait déjà un tempérament un petit peu déterminé, un petit peu dur, comme l'avait dit Josiane pour sa maman. Hein,
voilà. Mais lors de son témoignage, de Josiane, j'avais l'impression qu'elle racontait ma vie, Josiane, l'autre jour. C'est pour ça que j'ai prêté une attention très forte à ce témoignage. J'ai dit, oh, cette dame, elle vit exactement ce que j'ai vécu pendant des années. Et puis après, je me dis, elle va nous parler de la maladie à un moment donné. Et puis elle n'en parlait pas du tout. C'est vous, à un moment donné, dans l'interview, qui avez commencé à aborder et la maladie, vous y avez pensé. Et elle était totalement réfractaire à cette idée. Or, j'ai vécu la même chose. Et en effet, ma maman était très, très autoritaire. Elle ne supportait pas les contradictions, les avis des autres. C'était elle qui avait toujours raison.
Même avant Alzheimer.
Ah, même avant, oui.
C'est pour
Alzheimer,
ça qu'on peut confondre justement un tempérament existant et ce que devient la personne avec la maladie. Sauf que vous étiez en train de nous dire, Daniel, qu'avec vous, elle restait quand même plutôt aimante et plutôt gentille.
Alors, je mets des guillemets, c'est-à-dire que elle m'a bien élevée. Elle a toujours été là, mais elle ne, de toute sa vie, par exemple, elle ne m'a jamais dit « je t'aime ». Jamais, jamais. Ce n'était pas dans son vocabulaire, ni à son mari d'ailleurs, elle ne lui a pas dit « je t'aime ». Elle l'aimait, on le voyait qu'elle était attentionnée, mais elle ne lui a jamais dit les mots d'amour. Elle mettait cette distance, parce que c'était son autorité, c'était de sa génération, on ne disait pas ces mots-là, il y avait un lien un petit peu particulier dans le sens où son caractère, ses colères des fois, nous perturbait tous quoi, dans la famille. Mais on savait qu'elle était comme ça, qu'elle était colérique, autoritaire, tout ça. Donc on passait. Et puis moi, pendant des années, j'ai passé ça. J'ai 60 ans depuis peu. J'ai passé ça parce que je me disais, elle est comme ça. Mais et j'ai mis du temps, c'est mon épouse qui m'a dit, mais tu sais, le comportement qu'elle a là en ce moment, il n'est pas normal. À la fin, elle finissait par me taper quand je lui faisais des choses qui ne lui plaisaient pas, du genre aérer sa maison. Elle ne voulait plus ouvrir les fenêtres depuis 2 ans. Eh bien, alors qu'avant, elle ouvrait sa maison en grand, elle mettait de la musique, elle faisait son ménage, enfin tout allait bien. Et sur des choses bénignes comme ça, eh bien, au bout d'un moment, elle s'énervait, elle me tapait. Ma mère ne m'avait jamais mis une gifle toute sa vie, quoi.
Ah oui, donc elle devenait vraiment irascible. Oui, bah ça c'est assez typique d'Alzheimer d'ailleurs, hein, ce durcissement de caractère, ça, ou être désinhibé, ne plus avoir de filtre.
Voilà, c'est le mot exact que m'a donné le docteur l'an dernier. Elle n'avait plus aucun filtre. Aucun filtre, puisqu'elle insultait le corps médical avec des mots très très grossiers. Elle leur faisait des choses un petit peu dramatiques, du genre leur rayer la voiture si l'infirmière venait à une heure qui ne convenait pas, leur découper les vêtements quand l'infirmière s'occupait de mon père, parce que mon père aussi a une déficience, enfin c'est la sénilité de l'âge, donc il a plus toute sa tête. Et donc, au début, j'ai mis des années à comprendre que la maladie avait aggravé son comportement. Et en fin 2022, j'ai commencé à vouloir lui faire des examens, qu'elle refusait, mais je l'ai forcé à les faire. Et petit à petit, au bout des examens, des IRM et tout ça, Alzheimer a été confirmé.
Et ça n'a pas alerté le corps médical,
Alors, les corps excès médical,
en tout genre, justement, verbaux. Alors, et bien,
leur docteur de famille depuis une trentaine d'années me disait, mais monsieur, à quoi ça va vous servir de savoir ce qu'elle a? De toute façon, c'est irréversible.
Alors en fait, il savait le médecin de famille. Alors
lui, il était, puisqu'il m'a fait des documents et tout ça pour transmettre à d'autres docteurs, des spécialistes. Donc il mettait qu'elle était psychorigide, puis il m'a dit, votre maman, elle a toujours été comme ça. Lui aussi, il était dans la même phase que moi, c'est-à-dire que son tempérament très fort et son caractère dur, contrariant et tout ça, il le connaissait. Et donc, il n'est pas allé sur la maladie tout de suite, lui non plus. Et après, quand il a senti que là, ça dérivait, il me dit, non mais là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais moi, j'ai insisté parce que j'ai dit, moi, je veux savoir. Tous mes amis qui ont leurs parents dans ces difficultés-là, au bout d'un moment, ils savent quelle maladie c'est. Et moi, j'avais envie de savoir. Pour savoir comment l'aider, comment la traiter si besoin.
Surtout pour envisager à un moment donné un placement, parce que Alzheimer, c'est très difficile de suivre les patients Alzheimer quand la maladie galope. C'est très difficile. En général, on les place en EHPAD. Hein.
Voilà, donc moi j'habite à côté, ma maison est à côté de la leur, et donc j'ai pu gérer ça entre ma famille, mon travail, tout ça, et puis mes parents à côté, les gérer pendant quelques années, mais là, en 2023, là je n'y arrivais plus, je suis artisan, j'arrivais plus à faire mes chantiers, j'arrivais plus à être concentré sur mes devis, tout ça, je passais ma vie avec...
À vous inquiéter surtout.
M'inquiéter pour eux et plus savoir comment les gérer. Donc là, on a envisagé avec le corps médical, quand on a commencé à faire les examens et qui révélaient quand même des comportements très excessifs, qu'il fallait la placer. Mais c'est arrivé, ces conclusions-là sont arrivées qu'en octobre-novembre 2023, donc ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était comme ça, mais c'était son caractère. Comme cette dame, cette Josiane de l'autre jour, où on restait dans « Ah oui, mais ta mère, elle a toujours été comme ça. Ah oui, c'est vrai. Mais là, quand même.
C'est intéressant, votre témoignage. Merci beaucoup de le livrer, parce que c'est vrai que dans le cas des parents qui sont un petit peu durs, un petit peu colériques, avec des caractères compliqués, on est en train de voir que le caractère peut cacher les symptômes d'un Alzheimer totalement. Éventuel ou d'une sénilité ou d'une démence précoce, finalement.
Totalement.
On peut confondre.
Totalement.
On peut confondre.
Oui, oui. Totalement. C'est parce que les exigences qu'elle avait envers nous, envers. Donc envers moi, le fils, sa belle-fille, mes filles, tout ça, elle aimait tout ce monde. Mais les exigences qu'elle, et puis la façon qu'elle faisait avec nous, il y avait des fois, c'était pesant, mais depuis des décennies.
Oui, c'est ça, c'était déjà là avant, finalement.
Mais largement, largement. Et puis comme elle avait été dépressive, elle a eu des dépressions fortes dans sa jeunesse, vers 40 ans, vers 50 ans. On mettait tout ça dans ce schéma-là. Mais comme la dame l'autre jour, sans jamais penser à la maladie. Mais après, quand elle a commencé à découper les vêtements des infirmières, quand elle s'occupait de mon père,
là, c'était criant.
Quand elle rayait la voiture, quand elle mettait des morceaux de bois dans les serrures des maisons, bon, là, on a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne se lavait plus.
Oui, c'est ça. Elle s'abandonne complètement.
Alors,
oui.
Voilà. Alors que c'était une dame très coquette, qui allait toutes les semaines chez le coiffeur, qui était toujours bien habillée, qui était... Et là, avec la maladie, elle a commencé à ne plus se laver, à plus se changer les vêtements, à plus nettoyer sa maison. Et elle refusait qu'on l'aide. Elle refusait donc des personnes étrangères. Et moi, quand j'y allais pour faire le ménage, elle m'arrachait la serpillière des mains, elle me fermait le robinet quand je faisais couler dans le seau. Voilà, elle refusait toutes les aides.
Y compris de ses petits-enfants, parce que parfois avec les petits-enfants, ils peuvent être un peu plus doux, presque de manière animale en fait.
Vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que des petits-enfants, elle n'avait pas ce côté agressif. Elle était effacée, on va dire. Les petits-enfants, mes filles vont de 18 à 33 ans, et elle me disait au fur et à mesure, « Mamie, elle ne parle plus, elle ne s'exprime plus. » Alors qu'avant, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, d'ailleurs on entendait qu'elle. Elle prenait toute la place. Et puis, là, elle dit, ben mamie, on lui parle, rien ne l'intéresse. Donc les conversations, c'était assez rapide. Et puis, je ne voulais pas que mes enfants, par exemple, essayent de la laver, de lui laver ses toilettes, des choses comme ça, des choses que je voulais qu'ils gardent une bonne image de leur mamie. Donc je ne voulais pas qu'ils s'immiscent dans cette vie quotidienne qui
ne l'avait pas apporté, selon vous.
Voilà. C'est moi le fils. Et bien, chacun son tour, on a des choses à faire vis-à-vis de nos parents. Donc, je ne voulais pas y aller pour la voir, pour lui tenir compagnie ou comme ça. Mais la compagnie, c'était... Elle restait assise et puis elle ne disait plus rien. Et puis, à la rigueur même, on sentait que plus vite les gens repartaient, plus elle était soulagée. Voilà. C'est même la présence des petits-enfants, moins ça durait.
Mieux c'était.
Oui, parce que
ça lui compliquait son quotidien.
Oui, son quotidien qu'il n'y avait plus rien, puisque.
Puisqu'elle ne faisait plus rien.
Elle ne faisait plus rien. Donc, mais elle croyait qu'elle faisait. Quand je lui faisais le ménage, elle disait je l'ai fait ce matin. Si je n'étais pas passé de la semaine, il n'y avait pas un coup d'éponge qui avait été donné, quoi. La vaisselle, elle ne la faisait plus, se laver, son hygiène à elle. Et là, j'avais un problème, c'est que mon père était dans le même état, donc l'hygiène, je pouvais m'en occuper entre garçons, ça ne me gênait pas, mais m'occuper de ma maman. Et puis en plus, comme elle ne voulait pas...
Et elle ne voulait, voulait pas d'aide à domicile, j'imagine, en plus, puisqu'elle ne voulait pas d'aide.
Zéro aide à domicile. On n'a ni les repas, ni la portance des repas, ni pour le ménage, ni pour les soins, ni pour la toilette. Elle ne voulait voir personne rentrer chez elle.
Et si vous lui aviez imposé, elle aurait été insupportable avec la personne ?
Mais elle l'a été. C'est-à-dire qu'il y a une dame de ménage qui est venue, elle a fait une heure, elle a dit « je ne reviens plus jamais ». Les cabinets infirmières qui étaient là obligés de venir pour mon père, qui lui est en fauteuil roulant, était obligé de venir matin et soir, mais elle leur a fait tellement de crasse, elle leur a parlé tellement méchamment et tout ça que j'ai perdu des cabinets. Au bout de quelques mois, ils me disaient, monsieur Acossade, on vient plus du tout, parce que là c'est trop dur et on ne sait pas ce qu'elle va nous faire si elle a un couteau comme ça quand elle nous découpe les vêtements, on ne sait pas. Donc c'est
trop
dangereux.
Parce qu'elle découpe les vêtements, mais elle aurait pu être violente. Hein. Fait partie des symptômes aussi. Hein.
Voilà, bien sûr. Donc on a perdu les cabinets d'infirmières.
Combien de temps vous vous êtes occupé d'elle comme ça, en étant malade sans savoir qu'elle l'était finalement?
Ben, mon papa a eu une opération du cœur qui a compliqué leur vie en 2016. Et puis, il s'est cassé le col du fémur en 2021. Et là, ça a encore plus aggravé la situation. Et c'est depuis 2021 que tous les deux, ma mère portait mon père toute sa vie. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. Elle l'a tiré vers le bas parce qu'elle... Elle s'en occupait plus bien dès que j'étais au travail. Elle s'en occupait plus bien, quoi. Donc, et ça a duré donc 3 ans.
Elle a été maintenue à la maison avec votre papa jusqu'à son décès.
Non, mon papa est parti en EHPAD 2 mois avant. 2 mois avant son décès, on l'a mis en EHPAD parce que là, je tenais plus et le corps médical m'a aidé à le mettre en EHPAD parce qu'il. Tant qu'on n'a pas de tutelle ou de curatelle, tout ça, sur nos parents, on ne peut rien décider, il faut le savoir. On ne peut rien décider à leur place. Oui, oui. Donc ma maman, refusant tout, on était un peu pris au piège. Elle refusait les examens, elle refusait les aides. Décider qu'elle devait aller dans un centre spécialisé, elle refusait aussi.
Mais elle représentait un danger pour votre papa.
Elle pouvait, en écoutant l'histoire, représenter un danger, mais avec lui, elle était au petit soin. C'est-à-dire qu'elle était à côté de lui toute la journée, et dès qu'il demandait quelque chose, un verre d'eau, aller aux toilettes, tout ça, elle allait lui chercher ses effets, son verre d'eau. Elle consacrait sa vie à son mari, mais par contre, elle le faisait mal. Elle le faisait tomber souvent,
elle ne s'énervait pas contre lui.
Non, contre lui, je ne l'ai pas vu s'énerver. Je ne l'ai pas vu s'énerver.
Donc elle était très sélective, de manière peut-être inconsciente, hein, parce que comme quoi le cerveau vit sa propre vie. Hein, parce qu'avec son époux, elle ne s'est pas énervée, alors qu'elle s'énervait avec son fils unique, un petit peu moins avec ses petits-enfants, et avec toutes les autres personnes extérieures, elle s'énervait aussi.
Oui. Ah oui, alors les extérieurs, là, un expert gériatre est venu à la maison, c'est un épisode fameux. Le monsieur, il notait, il lui demandait de se calmer, mais elle avait un comportement comme j'avais jamais vu, quoi.
Et est-ce qu'elle avait des oublis aussi, parce que vous nous parlez de son attitude au quotidien,
oui.
Mais elle oubliait les choses ou pas?
Oui, puisque quand mon papa était placé en EHPAD 2 mois avant son décès, je l'accompagnais voir mon père, mais il y avait des jours où j'étais sur un chantier ou comme ça, je ne pouvais pas la mener. J'étais dans mon atelier, elle venait 10 fois dans la journée me réclamer « Est-ce que tu peux m'amener voir papa ?» Et je lui disais « Mais maman, tu viens de me le demander, là, il y a un quart d'heure, tu es déjà venu. » « Mais non, je ne suis pas venu. » »« Si, si, tu es venu. » Parce qu'il n'y avait qu'un portail à traverser entre sa maison et la mienne, et mon atelier. Donc elle oubliait toutes les choses récentes. C'était oublié.
Oui, la mémoire courte, à court terme.
La mémoire courte était complètement occultée. Là. Il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, là, je lui avais retiré la clé de la voiture. J'allais lui faire les courses et tout ça. Je voulais plus qu'elle conduise parce qu'elle conduisait très bien. Mais quand j'ai vu comment ça dérivait, j'ai dit, là, elle peut très bien
oublier
les notions du code ou comme ça.
Elle devient un danger public, là, comme le disait hier une auditrice qui a appelé France pour attirer l'attention justement sur la conduite sous médicaments, ou alors là encore pire, avec des problèmes de mémoire, on n'en parle même pas. Est-ce que vous pensez, Daniel, que vous avez fait un petit peu de déni à un moment donné, parce que justement elle avait ce fort caractère, c'était aussi d'une certaine manière presque plus facile pour vous que de vous confronter à la réalité, de vous dire, bon, de toute façon, elle est déjà casse-bonbon, alors c'est normal en vieillissant qu'elle le devienne de plus en plus. Parce que c'est souvent ce qu'on dit, que les travers s'accentuent en vieillissant.
C'était pas une solution de facilité parce que justement c'était quand je revenais de chez eux, chaque fois j'étais pendant 2 heures bouleversé. Donc c'était vraiment pas facile. Par contre, en effet, j'étais dans le déni de la maladie, parce que je n'y pensais même pas. Il y a trois ans, je ne pensais même pas qu'elle avait la maladie. Je pensais vraiment que c'était son caractère qui, avec l'âge, faisait que c'était exacerbé.
Voilà. Oui. Comme on se dit souvent, parce que c'est vrai que les défauts s'accentuent en vieillissant. C'est plus dur de changer quand on a 80 ans que quand on en a 20, bien sûr.
Mais il y a des choses qui ne trompaient pas après, c'est que les insultes, ma mère ne disait pas de gros mots, m'insultait moi encore moins, me tapait encore moins, puisqu'elle n'avait jamais fait de sa vie, et puis des choses délirantes, quoi. Des choses qui me font sourire aujourd'hui avec ces allumettes qu'elle mettait dans les serrures de mon portail, de ma maison. Ça paraît marrant comme ça, mais c'est...
Elle savait plus ce qu'elle faisait, en fait. Oui, c'est ça.
Parce que je l'ai déjà prise sur le fait, et elle me disait, c'est pas moi qui ai fait ça. Et je lui ai dit, maman, je vais te voir à l'instant. Mais je te dis que c'est pas moi. Et je lui ai dit, c'est qui ? Je lui ai dit, à toi et le chat. Et c'est le chat. Mais je lui ai dit, non.
Mais oui, c'est ça. C'est plus du tout la réalité. On n'est plus du tout dans la réalité. Oui.
Plus du tout. Donc, moi, après avoir vécu ça, et puis je vois que tous mes amis de 55 à 70 ans qui ont leurs parents à des âges entre, on va dire, 85, 90 et 100 ans, on est 8 sur 10 à être tous dans la même situation. Ne pas savoir comment les gérer, ne pas savoir quoi faire, les mettre dans des centres spécialisés ou pas, les garder à la maison, puisque... Il y a plein de mesures qu'on nous dit, il y a des aides pour les garder à la maison, tout ça. Mais il y a des cas de figure comme là, c'était impossible de mettre des aides à la maison. Et on est tous désemparés, quoi.
Ça pose la question des EHPAD qu'on aborde souvent dans la libre antenne d'Europe 1. De toute façon, trouver la place en EHPAD, financer l'EHPAD aussi, c'est important.
Oui, alors il y a le financement, ça nous fait, parce que c'est pas donné, mais bon, c'était possible, et c'était la volonté de la personne. Puisque là, j'ai fait pour mon papa une habilitation familiale devant un juge des tutelles, et le juge des tutelles m'a dit, pour votre papa, qui c'est qui a signé les papiers de l'EHPAD? Et là, je la regarde, je lui dis, c'est moi. Elle m'a dit, mais oui, mais vous n'aviez pas l'habilitation pour le faire. Et bien, je lui dis, je sais, mais comme mon papa n'a plus sa tête, qui c'est qui le fait? Donc là, la méthode aurait été que je fasse faire l'habilitation familiale ou la tutelle ou la curatelle, etc., avant de le placer en EHPAD. Mais je lui dis, quand les problèmes arrivent, on n'a pas le temps de faire tout ça.
Et oui, c'est le serpent qui se mord la queue.
Et donc la juge me dit, mais vous inquiétez pas.
Vous n'êtes pas tout seul dans ce cas, voilà, c'est
non,
ça.
Non, elle me dit, c'est tout le monde. Par contre, après, il faut régulariser la situation. C'est-à-dire que là, il n'a plus sa tête. Donc, il faut que quelqu'un ait l'habilitation familiale ou la protection juridique ou la tutelle ou la curatelle vis-à-vis de la personne. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Ce qui est logique.
Et cette information, elle est importante pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent. S'ils ont des parents qui sont en train de décliner à cause de l'âge souvent, ou d'AVC, de faire le nécessaire, d'anticiper, faire le nécessaire.
Il faut anticiper. Alors là, oui, c'est un appel, parce que moi, je l'ai fait dans l'urgence et conseillé par le corps médical et tout ça vers la fin. Mais on aurait dû le faire avant, parce qu'en plus ça prend des mois. Moi, j'ai déposé mon dossier en octobre pour mon papa. Je viens d'avoir l'habilitation il y a 15 jours.
Et oui, c'est comme les places en EHPAD, c'est la même chose. Bon, alors il y a les regroupements familiaux aujourd'hui quand même, c'est-à-dire que souvent ils cherchent une place dans les EHPAD et on est favorisé dans la ville où on réside, où les enfants résident, où un des enfants réside.
Oui,
il y a vraiment ce regroupement géographique maintenant.
Oui, mais je sais que dans ma commune, elle est trop petite pour... Il n'y a pas d'EHPAD, mais et les communes qu'il y a autour, je suis dans la région bordelaise, on est de plus en plus nombreux sur Bordeaux, et on est de plus en plus nombreux à avoir des parents à devoir placer en EHPAD, et c'est vrai que les places sont chères. Quoi. Mais là, j'ai eu un petit avantage, c'est que mon papa a eu une infection pulmonaire, et du coup, c'est l'hôpital qui a dit non, ce monsieur ne peut pas rentrer chez lui, surtout avec l'état de son épouse. Donc là, ils ont fait le forcing dans le fameux
EHPAD où il est.
Oui, dans l'EHPAD où il est, non, dans les EHPAD auxquels je m'étais inscrit. pour dire là, il faut le placer, ce monsieur, c'est impossible qu'il rentre chez lui. Donc voilà.
Vous auriez pu, Daniel, en profiter d'ailleurs, parce qu'il était, il était marié avec votre maman, pour placer les deux à ce moment-là. Parce que les couples rentrent ensemble aussi parfois dans les EHPAD.
Alors, c'était le cas, c'est-à-dire que j'étais en train de faire les dossiers, j'avais fait venir les gériatres experts à la maison pour mon papa et ma maman. Mais le temps d'étudier le dossier, ben, ma maman est décédée malheureusement. Mais mais j'étais en train de faire les deux dossiers. Oui. Les deux dossiers, par contre, ma maman n'aurait pas pu aller avec mon père.
Non, elle aurait été dans l'unité Alzheimer. Oui, c'est ça.
Voilà.
Une unité qui est fermée en général, dans l'EHPAD.
Et elle y aurait été de force. Et ça, j'avoue que moi, personnellement, quand j'en ai parlé avec les gériatres, j'ai dit non, je ne me vois pas forcer ma mère à aller dans un truc pareil. Quoi. J'avais du mal à imaginer ça.
À vous résoudre, oui.
Qu'elle y aille, qu'on l'accompagne, qu'elle y aille comme si elle était à l'hôpital. Bon, et puis elle y reste. Mais non, là, ma maman, elle avait la hargne contre le système médical, la rage, et puis elle se défendait, et puis elle ne voulait pas y aller. Quoi. Donc,
ça a dû lui faire bizarre de rester quand même deux mois toute seule dans la maison, non ? Après que vous ayez placé votre papa.
Oui et non, parce que on a trouvé un EHPAD pas loin, et quand je sortais du travail, je l'amenais voir mon père. Les après-midi où j'étais dans mon atelier, je l'amenais aussi. Donc elle le voyait presque tous les jours. Quoi.
Oui, donc, et puis de toute façon, elle n'était pas consciente de l'espace, du temps.
Il y avait ça, et puis elle n'était même pas consciente qu'il était en EHPAD. Elle croyait qu'il était à l'hôpital et qu'il allait revenir à la maison la semaine suivante.
Oui, voilà, c'est ça. Elle n'avait pas du tout conscience de ce qui se passait de toute façon. Elle confondait EHPAD et hôpital. Finalement, elle a pu rester à la maison jusqu'au bout. Hein, c'est important.
Oui,
Allez-y, pardonnez-moi.
Non, je disais que ça, on le dit, que c'est important de rester à la maison jusqu'au bout.
Mais quand on peut, attention. Alors, quand on constitue un danger pour autrui et pour la personne, c'est pas possible. Hein.
Voilà. Mais j'avoue que dans une situation comme ça, un très fort caractère qui refuse toutes les aides, quelles qu'elles soient, médicales ou sociales, les garder à la maison, c'est très très difficile parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, faire la toilette à ma maman, je ne serais pas vu le faire.
Oui, et vous n'allez pas le demander à votre épouse en plus. Donc,
je ne voulais pas, parce que mon épouse a sa maman à gérer.
Et oui.
Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué quand la personne
ne veut
est
pas.
Dans le déni total. C'est ce qu'un gériatre avait conclu. Il m'a dit cette dame est dans un déni total de sa vie. Elle est à côté de sa vie, cette dame. Elle ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe. Elle croit qu'elle gère tout alors qu'elle gère rien du tout.
Oui, et ça n'aurait été qu'en empirant de toute façon. Parce que c'est, comme le disait votre généraliste, complètement irréversible. La grande chance que vos parents ont eue aussi, et notamment votre mère, c'est que vous étiez juste à côté. Les enfants sont dispatchés dans plusieurs régions, alors là, c'est compliqué aussi. Hein.
C'est ce que je me dis. Elle a eu deux chances. C'est que j'étais à côté et que j'étais fils unique, c'est-à-dire que je ne me battais pas avec mes frères et sœurs pour savoir qui va gérer papa ou maman.
C'est une chance et à la fois une malchance, parce que quand on est plusieurs, on partage les responsabilités aussi, c'est-à-dire les choix, les démarches, le montant financier. Quand on est seul, on supporte tout seul, c'est lourd à gérer.
Dans tous les amis que j'ai, même des familles unies, quand arrivent ces problèmes-là, ça commence à se désunir entre les frères et sœurs. Énormément. J'ai malheureusement trop d'exemples. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était une chance pour eux. Au moins, je me battais avec mes propres décisions. Et puis voilà. Quoi.
Alors, je mets un petit bémol. C'est vrai que ça se désunit au début de la situation parce que le système familial bouge. De fait, puisqu'il y a un des parents ou les parents qui deviennent, entre guillemets, inaptes parce qu'ils vieillissent, et surtout avec la maladie d'Alzheimer. Donc le système familial s'ébranle, en fait. Hein. Les places sont redistribuées dans les responsabilités, etc. Et ensuite, souvent, quand il y a beaucoup d'amour, la famille se modifie et se réunit, dans le sens de la réunion. On refait une union. Voilà.
Je le souhaite à toutes ces familles parce que on peut pas on peut pas résoudre le problème d'un trait de stylo, quoi. Donc, il faut serrer les coudes parce que sinon, ça marche pas. Moi, j'ai eu la chance que mon épouse, mes enfants, tout le monde me soutenait dans, et puis soutenait leur papy-mamie, quoi. Mais je vois bien qu'il y a des familles quand même pour qui c'est très dur et que quand il y en a un qui est à 500 km et l'autre qui est à 10 km, c'est celui qui est à 10 km qui fait 90% du travail, quoi. Et donc là, ça pose problème parce qu'après, il y a des rancœurs entre frères et sœurs, tout ça. Et ben, je le vis avec. Je vous dis, j'ai 8 amis sur 10 qui sont dans la même situation. Comment on fait? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le soigne? Où c'est que je le mets? Est-ce que je fais une tutelle? Tout le monde est dans ce questionnement.
Et ça va devenir de plus en plus problématique, puisqu'on va vieillir vieillir de plus en plus tard, en fait, ou de plus en, on va durer de plus en plus longtemps. Donc il va bien falloir qu'on réinvente. Non, mais il va falloir qu'on réinvente et on réinvente. On a eu beaucoup de témoignages dans la Libre Antenne d'Europe 1 qui vont dans ce sens, des systèmes de logement pour seniors, de colocation de seniors, des personnes qui créent des maisons médicalisées pour deux ou trois personnes, dont une seule dépendante. Les deux autres qui sont plus valides. On a tout à inventer.
Avec les étudiants aussi, tout ça. Voilà. Mais ça, c'est quand il y a la personne âgée, déjà, a toute sa tête, ou presque, qu'elle n'est pas forcément handicapée, parce que quand elle est handicapée, c'est beaucoup plus difficile à gérer, je le vois avec mon papa. Qu'elle est volontaire pour ce genre de démarche. Et quand vous cumulez les trois choses, l'handicap, le fait d'être réfractaire totalement à toute aide et tout ça, mais on peut créer toutes les maisons du monde avec tous les concepts, la personne n'ira pas. Elle voudra pas y aller.
Oui, mais de toute façon, dans le cas de votre maman, il aurait fallu à un moment donné une prise en charge médicalisée dans un EHPAD, de toute façon. Vous y alliez de toute manière, quoi qu'il arrive. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, les médecins auraient fait ce qu'il faut pour dire qu'elle rentre en unité spécialisée, de toute façon.
En effet, le dernier gériatre, il a dit, là, on va lui donner un traitement pour la calmer,
gommer les troubles de l'humeur un petit peu, de manière à ce qu'elle puisse au moins vivre un quotidien où il y a moins d'agressivité, en fait.
Voilà, et ça, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place, puisque la pauvre, elle est partie avant, mais à la rigueur, je ne sais pas si vos auditeurs vont accepter cette remarque.
Je vois où vous voulez en venir, c'était presque mieux comme ça.
Ah, mais c'est pas que c'était presque mieux, c'est que c'est un soulagement pour elle, je pense, parce qu'elle avait une vie qui ne correspondait plus du tout à la vie qu'elle avait eue avant, et qu'elle en était triste et malheureuse, puisque le peu qu'elle exprimait, c'était « je n'ai rien à foutre de cette vie, quoi, elle était là pour mon père, point. Et puis le reste, tout était effacé. Plus d'amis, elle mettait plus de musique, ils allumaient plus la télé, ils ne voyaient plus personne. Tout était effacé. Soulagement pour elle et malheureusement aussi soulagement pour moi, puisque j'ai retrouvé une vie plus apaisée, puisque mon papa en EHPAD, maintenant je sais qu'il est géré. Et je tire mon chapeau aux gens qui sont en EHPAD, malgré tout ce qu'on vit.
Oh que oui. Et j'en profite pour parler aussi des assistantes sociales qu'on oublie trop souvent et qui font les dossiers dans les hôpitaux, justement, pour faire entre l'hôpital et l'EHPAD. Oui, très important. On ne parle pas assez des assistantes sociales.
Moi, j'ai eu ça. L'équipe médicale de l'hôpital pour le problème pulmonaire de mon papa et l'assistante sociale qui m'ont aidé dans le virage trajectoire pour faire tous mes dossiers, tout ça, à contacter les bons experts, etc. Et puis là, je vois l'EHPAD. Alors, en effet, à l'EHPAD, malheureusement, il n'y a pas assez de personnel, mais elles font ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent. Et elles le font, et avec le sourire. C'est un EHPAD public, et je dois dire que je suis soulagé parce que je sais que 24 heures sur 24, il y a quelqu'un pas loin. Alors bien sûr, elles n'arrivent pas quand on appuie sur la sonnette, elles n'arrivent pas dans la minute qui suit. Mais elles viennent, elles le nettoient, elles le nourrissent, elles le mettent sur son fauteuil, elles font les transitions, tout ça, elles l'habillent. Alors qu'avant, c'était moi et ma maman qui faisions tout ça. Donc tout ça, je leur tire mon chapeau parce que c'est 24 heures sur 24, quoi.
Oui, donc, et puis surtout, il est en lien aussi avec de l'humain 24 heures sur 24, parce que tous ces petits moments où on apporte un petit café à 16 heures, où on les descend au restaurant de l'EHPAD, où on discute un tout petit peu le matin en levant les personnes âgées, tous ces petits moments sont importants pour la personne âgée.
Exactement, exactement. Et c'est vrai que, alors en plus, bon, mon papa et lui, c'était l'inverse de ma maman, c'est un monsieur adorable, gentil, et il l'est toujours, malgré la démence qui le gagne, mais là c'est de la démence aussi, parce qu'il aussi, il a sa tête qui part dans tous les sens, mais quand il y a quelqu'un qui lui dit « Alors, Louis, vous êtes content, ça va aujourd'hui ?»« Oh oui, oui, oh, vous êtes gentil », il dit un petit mot comme ça, et puis je le vois, avec un petit sourire envers l'aide-soignante ou l'infirmière, et bien voilà,
et
elles sont là tout le temps,
voilà.
Et elles sont là tout le temps, alors pas à la minute près, bien sûr. C'est pas possible.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir témoigné ce soir dans la Libre Antenne d'Europe 1. Un grand merci, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Bonne continuation à vous, à votre famille et à votre papa.
Voilà, merci beaucoup.
Au revoir. Merci. Au revoir. Notez que vous pouvez retrouver Elisabeth Assayag et toute son équipe du lundi au jeudi de 20h à 21h sur Europe 1 pour La France bouge. La France qui nous fait du bien. Celle qui réussit, les audacieux, les entrepreneurs, les start-up, celle qui ose et qui réussit. On ne le dira jamais assez.